France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum « L'année vue par les savoirs ». Et si tout se jouait le 26 mai ? Europe, le moment de vérité. L'Europe est-elle un mythe, un rêve ou un cauchemar démocratique ? Quelles frontières ? À qui profite l'Europe ? À moins d'un mois d'élections déterminantes, France Culture sonde les enjeux qui traversent le continent au cours de 4 tables rondes et d'un dialogue de clôture animé par les producteurs de la chaîne. Venez nombreux, samedi 13 avril dès 10h dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Un événement en partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr. France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron fait confiance à sa garde rapprochée pour remanier le gouvernement. 3 nouveaux arrivants ont été nommés hier soir. Sibeth Ndiaye, jusque-là chargée de la presse à l'Élysée, elle est désormais porte-parole du gouvernement et remplace donc Benjamin Griveaux. Cédric O, conseiller du chef de l'État pour le numérique, devient lui secrétaire d'État au numérique. Et puis aux affaires européennes est nommée Amélie de Montchalin, députée La République En Marche, fidèle du président. Des choix vus par certains opposants comme un aveu d'isolement de la part d'Emmanuel Macron. Remaniement aussi en Algérie, où après un mois et demi de contestation populaire, le gouvernement est donc remanié. Il est constitué de 27 ministres au total, dont 8 sont issus de l'ancienne équipe. Parmi eux, le général Ahmed Gaïd Salah, chef de l'armée, vice-ministre de la Défense. Il avait proposé la semaine dernière d'écarter Abdelaziz Bouteflika du pouvoir. Justement, d'ailleurs, le président ou son entourage pourrait annoncer la démission d'Abdelaziz Bouteflika aujourd'hui, c'est ce que rapportent cette nuit 2 chaînes de télévision en Algérie. Il n'a aucune expérience en politique et il est pourtant largement en tête du premier tour de la présidentielle en Ukraine. Volodymyr Zelensky, 41 ans et comédien, il est crédité de 30,4% des voix, loin devant le président sortant Petro Poroshenko. Une deuxième place contestée et revendiquée par l'opposante Yulia Tymoshenko. Le second tour aura lieu dans 3 semaines. Hier se déroulaient également des élections en Turquie, des élections municipales. Et le parti du président Recep Tayyip Erdogan est en difficulté, notamment dans les 2 grandes villes du pays. Dans la capitale Ankara, l'opposant au candidat d'Erdogan a pris le dessus. C'est une première depuis 25 ans. Et puis à Istanbul, le candidat présidentiel et l'opposition revendiquent la victoire. Les résultats sont extrêmement serrés et cela va se jouer à quelques milliers de bulletins. Et puis le cardinal Barbarin est encore présumé innocent. L'argument du pape François est toujours le même. Après avoir refusé la démission du cardinal, le pape l'a dit lui-même dans l'avion qui le ramenait au Maroc hier soir.
Le 7 avril 1994 débute le génocide des Tutsis au Rwanda. Il fera 800 000 victimes en 100 jours. Printemps 2019, 25 ans après, à quoi ressemble aujourd'hui le Rwanda? Comment s'est transmise la mémoire du génocide? Quelles traces dans les corps et les esprits?
Il n'y a plus de ruines.
Enquête documentaire, témoignages, reportages, sur France Culture, semaine spéciale, 25e anniversaire du génocide rwandais, à retrouver sur franceculture.fr, en partenariat avec Courrier International.
Il est 6h03, nous sommes le lundi 1er avril, vous écoutez France Culture, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Isaac, c'est un prénom et c'est un mystère, une filiation et une philosophie. Isaac, c'est le titre du premier roman de Léa Weinstein, paru chez Grasset. C'est tout à la fois une enquête sur un aïeul et le journal intime d'une quête d'identité. Isaac, coup de cœur partagé avec Oriane Jeancourt du magazine Transfuge, présente avec nous ce matin, en même temps que l'auteur, Léa Weinstein. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
C'est le réveil culturel, c'est parti.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Et c'est votre premier roman, Léa Weinstein.
Oui.
Isaac, donc, il s'appelait Isaac, votre arrière-grand-père. Et longtemps, il n'avait ni prénom, ni histoire au sein du récit familial. Longtemps, c'était un sujet tabou, ou du moins un sujet qu'on évitait. Isaac était rabbin, Isaac a continué à être rabbin à Neuilly pendant l'occupation. Comment pouvait-on continuer à aller tous les jours à la synagogue pendant cette sombre période où les Juifs étaient raflés et envoyés dans les camps de la mort? Qu'avait fait Isaac pour échapper aux persécutions? Et pourquoi sa fille, votre grand-mère donc, Léa Weinstein, a-t-elle décidé, après cet épisode, de rompre d'une manière nette et radicale avec le judaïsme? C'est l'enquête qui fait, la trame dramaturgique de ce livre, de votre premier roman.
Oui, c'est vraiment une enquête au départ. C'est une enquête qui commence par plusieurs hasards de la vie, comme souvent les enquêtes, et qui commence vraiment dans un lieu, qui est la synagogue de la rue Ancel à Neuilly, où on me dit, par l'intermédiaire d'une cousine, donc tout ça reste un peu de l'ordre de la légende familiale, on me dit qu'il y a une plaque dans cette synagogue en l'honneur de mon arrière-grand-père.
Paternel,
dont je ne connais même pas le prénom au moment où je vais à la synagogue. Et donc l'enquête commence ce jour-là face à cette plaque où je découvre qu'il s'appelait Isaac, où je comprends un peu pourquoi ma grand-mère nous a jamais dit comment il s'appelait, et où je découvre aussi les dates pendant lesquelles il a officié dans cette synagogue qui lance l'enquête sur le terrain vraiment historique, puisque je vois qu'il a officié jusqu'en 1948, année de sa mort, et sans discontinuité.
Donc sans interruption pendant la période de l'occupation.
Voilà.
Et ça, cela vous intrigue. Vous vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de grave que la famille a caché, occulté, enfui? Et pourtant, quand je dis que c'était un sujet tabou, c'était pas un sujet tabou, c'était plutôt un mystère qui planait là. C'est-à-dire votre père en parlait à sa manière, Léa Weinstein.
Oui, il en parlait, toujours justement à travers cette espèce de légende qui consistait à répéter avec une forme de fierté, un peu grotesque en même temps, étant donné que le judaïsme était complètement absent de la vie de mon père, de son enfance à lui et de ce qu'il nous transmettait à nous. Mais il aimait bien quand même répéter que son grand-père était rabbin. Donc effectivement, c'était pas tabou, c'était simplement un peu de l'ordre de la fiction. C'était vraiment comme un personnage de fiction pour moi, un truc qu'on répétait au dîner de famille et qui nous faisait rire, jusqu'au jour où je décide, moi, par le cheminement qui est le mien, notamment par mes études de philosophie, etc., de m'interroger sur cette histoire, sur mes origines. Et donc, jusqu'au jour où je me retrouve face à cette plaque, et effectivement, à ce moment-là, en fait, les deux éléments dont je dispose au départ, c'est-à-dire que ma grand-mère a occulté ce personnage et cette histoire-là.
Un peu plus qu'occulté, elle a rompu avec le judaïsme.
Voilà, alors elle, par contre, c'était de l'ordre du tabou, c'était de l'ordre du rejet même, et elle est allée jusqu'à ne pas transmettre ce prénom, ne pas dire comment il s'appelait.
Isaac, il faut le dire maintenant.
Isaac, voilà, ouais. Et c'est pour ça que je suis heureuse que le prénom soit le titre de ce livre, parce que c'est vraiment l'histoire que je raconte. C'est comment j'ai découvert ce prénom et comment derrière ce prénom...
Vous avez enquêté aussi sur comment cet arrière-grand-père rabbin pouvait-il continuer à officier pendant les années de l'occupation. Et ce questionnement, accompagné d'une enquête, parce que vous allez vraiment enquêter, vous l'avez transformé en ressort dramaturgique, littéraire, parce que vous pensez bien que le lecteur poursuit la lecture de votre enquête, de votre roman, avec cette question à la clé.
Oui. Oui, parce qu'effectivement, c'est dès le premier jour, c'est la question qui se pose, c'est-à-dire peut-être qu'en fait, il y a un lien entre ces deux éléments dont on parlait au départ, c'est-à-dire peut-être que si c'est devenu un tabou, une gêne, quelque chose dont on parlait pas, c'est parce que derrière se cache un personnage qui peut-être s'est compromis, qui peut-être pour pouvoir continuer à officier jusqu'en 1948, à un moment donné, pris des décisions, fait des choix dont la famille aurait eu honte après et qui expliquerait du coup ce silence. Donc c'est comme ça que c'est le ressort dramaturgique, comme vous dites. Mais c'est vraiment la question que moi je me pose au départ. Je me dis, je vais découvrir en fait des choses fracassantes, je vais découvrir un personnage peu recommandable, et donc je vais comprendre enfin le silence de ma grand-mère, la rupture avec le judaïsme. Bon, évidemment, ça s'est pas passé exactement comme ça.
Et évidemment, je ne dirai pas jusqu'où nous mène votre enquête, Léa Weinstein. Mais parallèlement à cette enquête, il y a une histoire de quête d'identité. Vous découvrez le judaïsme à travers les philosophes, mais on sent bien qu'il y a cette histoire familiale qui est présente, que ce n'est pas seulement par les philosophes que vous êtes arrivé à vous poser ces questions sur l'identité culturelle et le questionnement religieux.
Oui. Oui, c'est vrai que je raconte que ça s'est passé à travers la philosophie, donc à travers Lévinas, à travers Benjamin. Alors, j'aime bien raconter ça comme un cheminement purement intellectuel, mais évidemment, si je suis allée vers ces textes, c'est parce que certainement j'avais des questions en moi que je me formulais pas à ce moment-là comme telles, mais qui étaient là. Et je pense que j'ai cherché des réponses dans les textes parce que je pouvais pas tellement m'adresser à ma grand-mère, pour qui il était exclu complètement de poser même la question de savoir si on était juif. Donc
ni à vos parents qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit d'Alain Weinstein et de Laure Adler, qui eux ont vécu une période où la religion n'avait pas une grande place, c'est le moins que l'on puisse dire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'était, alors voilà, le judaïsme n'était pas pour autant absent en tant que culture, évidemment, à la maison, mais la question du fait que ce soit nos origines, qui est justement une question vraiment d'identité et d'affect, était quand même une question que j'osais pas tellement aborder. Et que donc j'ai construite un peu dans mon coin et avec les moyens que j'avais, et en l'occurrence comme j'étais étudiante à ce moment-là, les moyens, les outils que j'avais, c'était les textes, et j'ai commencé à chercher par là avant de porter le geste.
Est-ce qu'il y avait un vide, Léa Weinstein? Parce que ce qui est passionnant dans votre livre, c'est qu'on se rend compte que les gens de votre génération, vous êtes nés à la fin des années 80, ils sont tous dans ce questionnement, dans cette envie de retrouver un peu de spiritualité, ce retour au religieux. Est-ce que c'est un phénomène que vous prenez en compte ou qui vous englobe vous aussi?
Alors, je pense que il y a un phénomène de génération, ça je le ressens de façon assez forte pendant l'enquête, dans les rencontres que j'ai faites et certaines que je raconte dans le livre, et même depuis que le livre est là et que j'en parle, je sens qu'effectivement il y a un vrai effet de génération. Après, moi je récuse le terme de retour au religieux parce que ça me concerne personnellement. Je le vis pas du tout comme un retour, déjà. Mmh. Je le vis pas du tout comme quelque chose de religieux.
Mais de remettre le spirituel au centre des préoccupations. On en a beaucoup parlé, notamment avec les Français musulmans. J'ai l'impression que c'est une affaire de génération, mais peut-être que je me trompe.
Non, je pense qu'il y a un mouvement comme ça. Après, moi, ce que j'essaye de penser, c'est comment ce retour de la spiritualité, disons peut-être ce besoin qu'on a l'air de partager, effectivement, les gens de ma génération, de remettre un sens et donc de se rapprocher, de chercher, donc y compris vers la spiritualité, y compris vers la religion. Et à mon avis, il est surtout très fort sur la question de l'identité, des racines. Et ça, moi, je l'ai vraiment vécu par moments, même comme une crise, quoi. C'est-à-dire la question de savoir qui on est, comment on doit composer avec nos origines, est-ce que ça doit être une boussole ou pas, comment se fait-il que nos parents n'en aient pas eu besoin? Et pourquoi nous, est-ce qu'on en aurait besoin? Parfois, on est...
Et plus que jamais besoin, à la fin de votre roman, Léa Weinstein, vous êtes mère, et se pose la question de la transmission.
Oui, qui est une question difficile, parce que ça aiguise évidemment tous ces mouvements-là dont on est en train de parler, parce qu'au moment où j'attends donc mon premier enfant, mon seul enfant pour l'instant, je me dis que justement je vais plus pouvoir être dans le bricolage, je vais plus pouvoir dire je suis culturellement juive, j'ai des origines juives, mais je ne suis pas religieuse et je n'ai rien à voir avec ça. Et d'ailleurs ma mère n'est pas juive, donc en fait je ne le suis pas. Tout ça me paraît trop compliqué à comprendre et dans la dynamique de la transmission, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse place nette. J'ai l'impression qu'il faut que tout soit clair et à ce moment-là, j'envisage même la conversion en me disant peut-être qu'il faut que je
simplifie. Pour ces mêmes raisons, pour que tout soit net, comme vous venez de le dire Léa Weinstein, vous épousez quelqu'un qui est religieux et pratiquant ?
Alors lui n'est pas religieux et pratiquant, mais il vient d'une famille qui l'est. Mmh. Ensuite, il a fait, lui, son propre chemin. Mais en tout cas, oui, il vient vraiment d'un milieu que je découvre à travers lui, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est qu'une famille religieuse, qu'elle soit juive ou catholique ou musulmane. D'ailleurs, j'ai aucune idée de ce que ça peut être une famille.
Et quand vous découvrez ça, quand vous découvrez ce monde, c'est-à-dire structuré avec la religion, comment vous réagissez, comment vous vous retrouvez, Léa Weinstein?
Je suis un peu face à mes contradictions, justement. Il y a beaucoup d'ambivalence parce que, à la fois, mon mouvement naturel, c'est quand même le rejet, qui est un réflexe de philosophe, un réflexe de quelqu'un qui a grandi dans un milieu complètement athée. Et en même temps, c'est un peu ce que je raconte au début du livre. Petit à petit, je me sens, malgré ma résistance, je me sens un peu percutée. Par une espèce de spiritualité, comme vous disiez tout à l'heure. Je sens que ça m'atteint, que ça me touche, que ça me fait quelque chose. Et donc, au départ, je m'en défends plutôt en me disant non, mais c'est pas de ça dont il s'agit pour moi. Et voilà, du coup, ça fait partie du chemin.
Et dans Isaac, donc dans ce premier roman, il était chez Grasset, Léa Weinstein, ce que vous venez de dire, on peut le retrouver à travers des situations tout aussi complexes et ambiguës, mais qu'on comprend tout de suite, c'est-à-dire votre voyage en Israël. Vous vous sentez très très mal à Jérusalem, parce que c'est une ville religieuse, mais vous vous sentez complètement à l'aise à Tel Aviv, qui est une ville laïque, où les gens vivent comme ils l'entendent. Et puis autre chose, et cette fois-ci on revient à la littérature, à vos études, vous avez trouvé quand même chez Kafka plus qu'un auteur complice, un réconfort, parce que son rapport au judaïsme ressemble un peu à ce nouveau rapport que vous entretenez avec vos origines, avec cette culture juive.
Oui, je découvre, en effet, il y a vraiment, en fait, je mène l'enquête sur mon arrière-grand-père, au moment où j'écris ma thèse, donc sur Kafka. C'est pas un hasard, bien sûr, mais du coup, les deux chemins sont vraiment parallèles et se nourrissent. Et c'est vrai, ça me touche que vous utilisiez le mot réconfort, mais c'est exactement ça, ça m'aidait. C'est-à-dire que l'enquête m'aidait à mieux comprendre Kafka et son rapport au judaïsme. Et à l'inverse, Kafka m'a beaucoup aidée à construire l'enquête, puis le récit, et à comprendre que effectivement il pouvait y avoir un rapport au judaïsme compliqué, changeant, parce que dans la vie de Kafka, ça a beaucoup changé. Hein. Il a eu des périodes où il a été complètement happé par la culture yiddish, notamment, où tous les soirs, il allait voir des pièces de théâtre en yiddish. Il a même écrit sur la langue yiddish un texte magnifique. Et puis ensuite, il a rejeté tout ça de façon assez virulente pour y revenir vers la fin de sa vie par des biais qui ont été des histoires amoureuses, qui ont été des nouveaux textes à travers notamment les figures animales, où il dit beaucoup de choses à travers les animaux sur son rapport au judaïsme. Et ça m'a ébloui.
Vous restez avec nous, Léa Weinstein, pour Isaac, votre premier roman édité chez Grasset. Dans un instant, on retrouve Oriane Jeancourt du magazine Transfuge. Mais on va écouter Léonard Cohen. Oui, ça se mérite, non ?
And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who, shall I say, is calling. Lonely slip, who by barbiturate, who in these realms of love, who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who shall I say is calling. Who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Léa Weinstein, pour son premier roman, il était chez Grasset, Isaac, une quête d'identité. Enfin, c'est réducteur de dire ça, hein, mais comment se faire découvrir une religion, une culture, une identité? Comment la réinventer, sachant que vous ne vouliez pas de cette religiosité de votre arrière-grand-père, mais que vous refusiez tout aussi ce refus de religion accompli par votre grand-mère, perpétué par vos parents, d'ailleurs d'une drôle de manière, puisque c'est votre mère, Laura Adler, qui vous donne l'envie aussi de vous questionner sur vos origines juives, et pas votre père.
Oui, c'est assez surréaliste, mais en fait, le judaïsme a bien été transmis par la mère, effectivement, dans ma famille, sauf que ma mère est auvergnate, mais elle a fait partie de cette génération qui est allée dans les kibboutz quand elle a eu 18 ans. Elle a gardé un attachement qu'elle-même explique peut-être pas, et peut-être qu'on n'a pas besoin de l'expliquer, mais elle a un attachement très profond qu'elle nous transmet, alors que mon père est dans une attitude plutôt silencieuse et plutôt ignorante, en fait. C'est juste qu'il en connaît pas grand-chose, donc il nous en raconte pas grand-chose. Mais j'étais émue en écoutant Leonard Cohen, parce que ça m'a rappelé, justement, un souvenir avec mon père où j'étais très jeune, je pense que j'avais 14 ou 15 ans, et où il m'a donné des disques de Leonard Cohen, d'une façon comme ça, un peu cérémonielle, enfin, comme si c'était quelque chose d'important qu'il était en train de me donner, en me disant « il faut que tu les gardes, il faut que tu les écoutes ». Et en fait, là, aujourd'hui, en écoutant cette chanson-là avec vous, je me disais que ça faisait partie des petits cailloux de transmission qui n'étaient pas forcément conscients ou délibérés, mais qui l'a quand même... glisser comme ça.
Alors Isaac, votre arrière-grand-père, je l'ai présenté comme rabbin, mais en fait, c'était le chanteur, c'était celui qui psalmodiait, je sais pas, en islam on dit muezzin pour celui qui fait l'appel à la prière.
Oui, c'est ça.
Et dans une synagogue, comment on les appelle ceux qui chantent?
Alors en hébreu, on dit chazan, c'est celui qui chante. De ce que j'ai compris des structures institutionnelles, c'est un peu le numéro 2 du rabbin. C'est-à-dire que c'est pas lui qui mène l'office, mais il a un rôle très important, et apparemment il a un rôle important aussi dans la communauté.
Ouais, et puis surtout, il faut avoir une voix.
Voilà.
Ce qui est incroyable quand on connaît l'histoire de vos parents, c'est-à-dire Alain Weinstein et Laura Adler, la voix est très présente.
Oui, et ça c'est très frappant. C'est dès le début de l'enquête, je comprends qu'il y a quand même quelque chose de vraiment fascinant dans cette histoire, parce que tous les témoins que je rencontre et qui l'ont connu, donc évidemment c'est des gens qui l'ont connu quand eux étaient enfants dans la communauté de Neuilly, et me disent je me souviens encore de sa voix. Tout le monde me parle de sa voix, et c'est vrai qu'à ce moment-là pour moi évidemment ça devient une raison de plus pour enquêter, quoi.
Alors, on va changer de voix. Bonjour, Auriane Jeancourt.
Bonjour à vous deux. Enfin, alors, je vous écoute, mais.
Ben voilà, pour ce coup de cœur partagé avec votre magazine Transfuge, Isaac de Léa Weinstein.
Oui, absolument. Mais ce que je trouve très beau dans ce premier roman, c'est que c'est le geste du premier roman. C'est-à-dire que vous allez vous confronter à la figure du commandeur, et c'est souvent ça le cas des beaux premiers romans. On se souvient de Modiano qui, dans Place de l'Étoile, allait se confronter assez violemment avec son père. Vous, c'est l'arrière-grand-père. Père, mais c'est tout de même la figure du commandeur. Vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, c'est le rabbin qu'on raconte en famille, non sans fierté. Moi, j'ai un grand-père pasteur, je sais qu'on raconte en famille quand même, il est pasteur, etc. Et donc, c'est ce geste-là qui est vraiment un geste infiniment romanesque et qui est aussi celui de Kafka que j'ai trouvé très beau, surtout quand il accompagne une réflexion sur d'où je viens, qui je suis. Et voilà.
Dans la France d'aujourd'hui.
Dans la France d'aujourd'hui, absolument.
Alors, à un certain moment, votre mère, alors Adler, vous disait, attention, vous êtes juif à partir du moment où vous vous appelez Weinstein, et en vous citant bien sûr Sartre, bien sûr, en vous disant on devient juif dans le regard des antisémites. Est-ce que le fait de vous appeler Weinstein, Léa, vous a posé un problème dans la France d'aujourd'hui?
Non, j'ai jamais ressenti à travers mon nom le problème de l'antisémitisme directement. Je l'ai ressenti dans des modalités très larvées et un peu plus complexes que je raconte un peu au début du livre, dans les cercles politiques d'extrême gauche au sein desquels j'évolue au moment de mes études et au moment où je commence à travailler sur des auteurs comme Benjamin qui appartiennent en fait à ces mouvances de pensée de gauche radicale, etc. Mais à partir du moment où je commence à cheminer vers Kafka, vers des auteurs plus spirituels et plus juifs et à m'interroger sur mes propres origines, là, je sens que les choses deviennent plus compliquées, mais c'est pas à travers mon nom. Ça, ce serait injuste de ma part de le présenter comme ça.
Identité avec James Baldwin qui fait la une de Transfuge, quelle bonne idée, Auriane Jeancourt.
Oui, c'est une bonne idée, et vous savez, c'est une idée qui coulait un peu de source, parce que vous l'avez peut-être remarqué, il y a un regain ces dernières années, tout le monde lit James Baldwin, que ce soit en France, que ce soit
aux
États-Unis.
Mais très peu le mettent en une de couverture.
Mais c'est vrai que très peu le mettent en couverture, et on a voulu mettre en avant son éloge de la tolérance, c'est bien pour ça qu'on l'a mis en titre de couverture, parce que James Baldwin, oui, ça on le sait, est un homme qui a combattu pour le droit des Noirs, qui a largement défendu, dénoncé les injustices, qui, notamment dans ses essais, qui a dénoncé les injustices qui s'abattaient, que ce soit dans le système judiciaire, dans le système éducatif, contre les Noirs, après-guerre et jusqu'à sa mort dans les années 80, et qui continue aujourd'hui, on le sait. Mais ce qu'on sait moins, peut-être, c'est que son éloge de la tolérance, sa passion de la tolérance. C'est-à-dire que c'était vraiment un auteur qui, que ce soit dans ses romans, donc là, est republié aux éditions Stocks, Sybil Street pouvait parler, qui a donné le film de Barry Jenkins. D'ailleurs, dans notre dossier, nous interviewons Barry Jenkins et bien d'autres.
Il y a aussi les textes sur le cinéma, très intéressants textes, édités
absolument.
Chez Capricci de James Baldwin.
Absolument, il y a ces textes sur le cinéma. Et puis, il y a ces essais reparaissent, que ce soit aux éditions Folio ou chez Gallimard, et notamment Chronique d'un enfant du pays, qui sont ses premiers essais qu'il a écrits à 30 ans, et où il parle de tolérance, où il dit « qu'est-ce que je fais ?» Moi, je suis un occidental, j'ai hérité d'une culture, il se promène à Paris, puisque vous savez, il est venu à Paris assez tôt dans sa vie, parce que, noir et homosexuel, il trouvait sa liberté à Paris, et certainement pas à New York, où il avait grandi.
Car
et
donc, tout est relatif.
Absolument. Et donc, il se retrouve à Paris, il regarde Notre-Dame de Paris, il va au Louvre, et c'est un texte extrêmement fort, et il dit, voilà, d'une part, je suis l'héritier de ça, parce que je suis imprégné d'une culture occidentale, et en même temps, je ne me retrouve pas dans ces œuvres-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Et donc, toute cette pensée qu'il y a dans ses essais, Une prochaine fois le feu, qui est un essai extraordinaire qu'il écrit 20 ans plus tard et qu'il écrit notamment face aux Black Panthers, qui l'appelle à faire sécession. On était quand même dans les années 60 avec des Black Panthers qui appelaient à faire sécession de l'Amérique. Et lui dit non, malgré tout, malgré les injustices qu'il a profondément subies, eh bien, il dit non, il faut parler d'amour. Mais amour, non pas au sens chrétien. Vous savez, il avait un débat extrêmement fort avec la religion chrétienne. Lui, il n'avait pas comme vous, un arrière-grand-père rabbin, mais il avait un beau-père, un père qui l'a découvert était un beau-père révérend, avec qui il a eu des échanges extrêmement violents. Et donc, il s'est toujours débattu, c'est d'ailleurs frappant dans ses romans, avec la culture chrétienne, avec la pensée chrétienne. Et donc, lorsqu'il parle d'amour, il parle d'un amour raisonné et d'un amour réfléchi. Et il dit, nous avons besoin de cet amour-là. Évidemment, on entend Martin Luther King, finalement. Baldwin est le romancier et Martin Luther King est le prophète. En quelque sorte.
Et nous avons besoin de ce discours-là, de James Baldwin.
Absolument.
Qui fait la une de Transfuge. Merci Aurienne Jeancourt d'être passée nous en parler. Et merci à Léa Weinstein pour ce premier roman.
Merci à vous.
Isaac, c'est chez Grasset. Bonne matinée sur France Culture.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Un autre regard sur l'actualité, chaque jour à 18h20, du grain à moudre, Hervé Gardette.
APB a vécu, Parcoursup devait tout fluidifier. Mais à l'usage, la nouvelle procédure mise en place pour orienter les élèves après le bac s'avère plus complexe que prévu. Alors faut-il avoir Bac plus 12 pour s'inscrire sur Parcoursup? On en débat ce lundi dans Du grain à moudre sur France Culture.
Du grain à moudre, ce lundi à 18h20 et sur franceculture.fr. 10 minutes par semaine pour comprendre un échec. Guillaume Herler.
Super Fail, le magazine de l'erreur, parce que l'on a toujours au moins une bonne raison de se planter. Un échec analysé chaque semaine, Super Fail. C'est à podcaster tous les lundis, sauf si ça plante.
Super Fail, Guillaume Herler, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'Algérie dévoile un nouveau gouvernement censé apaiser la contestation. On en est loin pourtant, vous le comprendrez, alors que certains hommes d'affaires tentent de quitter le pays avec leurs capitaux. Nous ferons le point également dans ce journal sur le remaniement français. L'exécutif a annoncé hier soir les noms des trois nouveaux entrants, des proches d'Emmanuel Macron. Et puis une loi contre les fausses informations est mise en place aujourd'hui en Espagne. Une centaine de policiers et des experts en cybersécurité seront notamment mobilisés à moins d'un mois des législatives. Le nouveau gouvernement apaisera-t-il la contestation en Algérie? L'équipe a été présentée hier. Elle est constituée de 27 membres, dont 8 anciens ministres. Après un mois et demi de contestation populaire, cette équipe ne répond pas aux promesses qui avaient été faites, Leïla Berrato.
Il n'y avait plus de gouvernement depuis le 11 mars. Les autorités avaient promis un nouveau gouvernement de technocrates avec des jeunes et des femmes. La promesse n'est qu'à moitié tenue. Il y a bien deux figures qui se détachent. Meriem Merdassi, 36 ans, éditrice de la ville de Constantine qui devient ministre de la Culture. Et Raouf Pernaoui, 43 ans, président de la Fédération d'Escrime qui prend la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports. Les autres nouvelles têtes du gouvernement sont des hauts fonctionnaires ou des responsables d'entreprises publiques. La principale information, c'est le départ de Ramtane Lamamra qui est remplacé par Sabri Boukadoum au poste de ministre des Affaires étrangères. Ramtane Lamamra qui était hier à Tunis pour la réunion de la Ligue arabe. Plus tôt dans la journée, ce qui faisait la une des médias algériens, c'est ce coup de théâtre. Ali Haddad, l'homme qui était à la tête du patronat algérien jusqu'à ce jeudi, a été arrêté alors qu'il tentait de se rendre en Tunisie. L'homme d'affaires est très proche de Saïd Bouteflika, le frère du président. Si les causes de cette arrestation ne sont pas encore claires, elle arrive au moment où des voix s'élèvent pour dénoncer des tentatives de fuite des capitaux. Alger a ainsi interdit hier l'atterrissage ou le décollage d'avions privés appartenant à des Algériens. Les médias évoquent des mesures d'interdiction de sortie du territoire prises à l'encontre de certaines personnalités et des contrôles renforcés aux frontières.
Du changement dans le gouvernement, c'est aussi le cas en France. On connaît désormais les trois nouveaux entrants. La députée de la majorité, Amélie de Montchalin, obtient le secrétariat d'État aux affaires européennes. Deux proches conseillers du président de la République sont également nommés, Cyril Gradiani.
Il a choisi de récompenser les fidèles, ceux qui accompagnent Emmanuel Macron de longue date. La surprise vient de la nomination de sa nouvelle porte-parole, Sibeth Ndiaye, chef du service de presse, directrice de sa com par intérim, quitte le palais, mais elle y reviendra une fois par semaine au moins pour les points presse du Conseil des ministres. Ancienne du PS, de l'UNEF, du MJS, elle a rencontré Emmanuel Macron à Bercy lorsque ce dernier a été nommé ministre de l'économie et l'a accompagné jusque-là. Également ancien de Bercy et également trentenaire, Cédric O est lui nommé secrétaire d'État chargé du numérique. O a été trésorier de la campagne d'Emmanuel Macron avant de rejoindre l'équipe du président à l'Élysée en tant que conseiller en charge du numérique, fin connaisseur des enjeux du numérique donc et de la French Tech. Pour la députée Amélie de Montchalin, cette fois c'est la bonne, longtemps annoncée entrante à chaque remaniement, notamment au budget dont c'est la spécialité. Elle remplace Nathalie Loiseau aux affaires européennes avec un dossier de poids, le Brexit.
Voilà pour les trois changements au gouvernement effectifs dès ce matin pour le Conseil des ministres avancé cette semaine. Quatre pensionnaires d'un EHPAD en Haute-Garonne au sud de Toulouse sont décédés cette nuit. Selon nos confrères de France Bleu Occitanie, ils auraient été victimes d'une intoxication alimentaire. Quatre morts donc. Au total, 22 résidents de cette maison de retraite auraient été touchés. Le prix de certaines prothèses dentaires sera plafonné à partir d'aujourd'hui, 1er avril. Un changement qui s'inscrit dans le reste à charge zéro, promesse du candidat Macron. Les lunettes et les prothèses auditives suivront l'année prochaine. L'idée est de lutter contre le renoncement aux soins chez les patients les moins aisés. Autre changement de ce 1er avril, la vaccination par le BCG n'est plus obligatoire pour les professionnels de santé. La décision a été prise par décret publié au Journal officiel et elle s'explique par le recul en France de la tuberculose. Tara Schlegel.
Jusqu'à aujourd'hui, pour tous les professionnels en contact avec des malades ou des petits-enfants, le BCG était obligatoire. Médecins, pharmaciens, dentistes, infirmiers, personnel de laboratoire d'analyse médicale, puériculteurs, chacun était concerné, de même que les personnes qui travaillent au contact des migrants ou des sans domicile fixe. Cette vaccination était considérée comme indispensable pour contrôler la maladie et surtout pour se protéger individuellement. Or, il se trouve que la tuberculose connaît une baisse générale depuis des années et que l'obligation de vacciner les bébés a elle-même disparu en 2007. 10 ans après cette date, l'agence Santé publique France avait publié un article pour démontrer que la fin du vaccin n'avait pas relancé la tuberculose. Hormis l'année 2008, plus 3%, et l'année 2014, plus 1%, la baisse est demeurée régulière. En 2015, le taux déclaré de la forme pulmonaire de la tuberculose était de 5 malades pour 100 000 habitants, mais avec des exceptions comme Mayotte, où il est 5 fois plus élevé et où la vaccination des bébés reste vraiment recommandée. Et puis, certaines populations fragiles, comme les SDF, sont 33 fois plus atteints. Le médecin du travail peut donc ponctuellement recommander à certains professionnels de continuer à se vacciner. Il faut savoir qu'en Europe, nulle part, le BCG n'est obligatoire pour les adultes.
Un comédien novice en politique est arrivé en tête des élections ukrainiennes. Volodymyr Zelensky devance, selon les résultats du premier tour, le président sortant, Petro Poroshenko. Malgré les doutes de ses détracteurs sur sa capacité à gouverner et le flou de son programme, ce candidat atypique a bénéficié du rejet des élites. Il obtient plus de 30% des suffrages. Le second tour aura lieu dans 3 semaines. Il a remporté toutes les élections depuis l'arrivée au pouvoir de son parti en 2002 en Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan est peut-être vaincu à Ankara. L'opposition y revendique la victoire après des élections municipales organisées hier. Et puis à Istanbul, le président turc, qui s'était engagé pour soutenir son candidat, le président est en mauvaise posture. Chaque camp dit avoir gagné ce matin. Et c'est à l'approche d'élections qu'en Espagne, le gouvernement dévoile aujourd'hui sa loi contre les fausses nouvelles, les fausses informations. Il avait décidé de mettre en place cette nouvelle loi avant les élections européennes de mai prochain, mais Pedro Sanchez a pris de l'avance puisque les législatives anticipées auront lieu dans le pays fin avril. Explication signée ce matin Marie-Hélène Ballestero.
À partir d'aujourd'hui, une centaine de policiers et des experts en cybersécurité vont être mobilisés en Espagne pendant toute cette campagne électorale. Le plan anti-fake news vise à protéger le déroulement du scrutin. Le ministère espagnol de l'Intérieur a identifié 3 menaces potentielles. Les attaques contre les institutions et les partis politiques, les attaques contre les systèmes de vote technologique et les possibles fraudes dans le recomptage des voix et pour finir, les campagnes de fake news. Cette dernière menace inquiète tout particulièrement l'Union l'Union européenne et le gouvernement espagnol qui va donc essayer de prévenir la diffusion de fausses informations sur Internet. Pour cela, les policiers vont surveiller de près notamment Facebook, son application de messagerie instantanée WhatsApp, Twitter ainsi que d'autres réseaux sociaux. Le ministère de l'Intérieur est persuadé qu'il y a un risque réel qu'une campagne de désinformation soit menée en Espagne en vue de changer les intentions de vote. Grâce à ce plan anti-fake news, l'exécutif espagnol souhaite garantir la tenue d'élections libres et justes. Comme le soulignait hier le quotidien La Vanguardia, la messagerie instantanée WhatsApp inquiète tout particulièrement en Espagne en ce moment, car lors des dernières élections régionales en Andalousie, en décembre, le parti d'extrême droite Vox a utilisé ce réseau pour diffuser ses messages xénophobes et cela a marché. Le journal El Mundo titrait récemment « De Bolsonaro à Vox, comment WhatsApp est devenu l'arme de propagande politique la plus efficace ?»
Dans l'ouest de l'Afghanistan, au moins 35 personnes sont mortes ce week-end après des pluies torrentielles. Les crues ont affecté des centaines de familles, pour la plupart déjà fortement touchées par une sécheresse dramatique dans le pays. Sonia Ghazali est sur place et elle raconte.
Des vaches, des moutons, des voitures emportées par des flots boueux. Les habitants de plusieurs districts de la province d'Herat, impuissants, ont assisté avec désespoir à la destruction de leurs habitations. Des milliers de maisons, nombreuses construites en terre, se sont effondrées. Les arbres ont été arrachées. Après 2 jours de pluie torrentielle, les crues soudaines ont tout emporté sur leur passage. Les camps de déplacés en périphérie d'Herat ne sont que désolation. Des milliers de tentes qui abritaient des familles qui avaient fui les combats entre talibans et forces gouvernementales dans la province, mais aussi leurs terres, fortement touchées par la sécheresse, ont été également emportées par les eaux. 80% des habitations des districts touchés par les crues ont été détruits, disent les autorités locales. 5 provinces sont concernées. Les températures se sont adoucies ces dernières semaines, enclenchant la fonte des neiges, alors que le pays fait face à une sécheresse qui dure depuis plus de 2 ans. Il y a quelques semaines, l'armée avait dû intervenir dans le sud du pays pour porter secours à des villageois pris au piège sur le toit de leur maison après des inondations qui ont coûté la vie à au moins 20 personnes.
Sonia Ghazali, correspondante de RFI à Kaboul pour France Culture. En France métropolitaine, le temps s'annonce encore chaud et ensoleillé ce lundi, ensoleillé surtout au nord de la Loire et sur le sud-est, car les nuages arrivent par les Pyrénées, la pluie également. Dès demain d'ailleurs, les giboulées vont traverser le pays. D'ici là, comptez 10 degrés déjà ce matin à Lille, 12 à Nantes, 13 à Paris et Lyon, 15 degrés à Bordeaux dans la matinée, 16 à Marseille. Il est 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Vous nous rejoignez pour votre journal des idées et en ce 1er avril, Jacques, ce n'est pas un poisson d'avril mais un vrai sujet que vous abordez. Il concerne la psychologie, la philosophie et la société, à savoir l'existence et la prolifération de cons.
Vous l'avez dit Clara, et c'est même un vaste sujet, comme le suggère l'expression connerie insondable qui génère une sorte de vertige. La question semble indéfiniment ouverte, constamment renouvelée, et je ne prétends évidemment pas en faire le tour en 5 minutes. On peut commencer par le mot lui-même. Dans sa longue histoire, il fait référence au sexe féminin, mais sa version masculine existe aussi, le mot couillon. Dans les deux cas, le dictionnaire de l'Académie insiste sur l'intention appuyée de vulgarité liée aux connotations sexuelles plutôt que sur l'organe lui-même. Par ailleurs, le rapport entre notre sujet et le langage est dense, comme le montre la belle tirade de Georges Picard dans son essai éponyme de la connerie. Ce que disent les cons, ils ne le savent pas eux-mêmes. C'est leur sauvegarde. La parole du con, sans être libérée du sens, ne s'astreint pas à l'exactitude. Crécelle à vocation fatigue, destinée à repousser le silence dans les coins. Le con s'accroche au lieu commun comme un trapéziste sous à son filin. Il agrippe la main courante des phrases toutes faites et ne lâche plus. Les éditions Sciences Humaines publient un ouvrage collectif sous le titre « Psychologie de la connerie ». Jean-François Marmion esquisse un tableau clinique non définitif. Le con chasse en meute et pense en troupeau. Il sait tout mieux que vous. Contre lui, la légitime défense est un piège, car à tenter de le raisonner, on entre dans son jeu et court le risque d'apparaître comme son autre symétrique. C'est l'effet miroir. Surtout s'il se présente comme un champion de l'anticonformisme, un héros de la lutte lutte contre le politiquement correct, notre nouveau point Godwin. Serge Sicotti évoque l'approche scientifique à travers les nombreux biais cognitifs qui se manifestent dans le raisonnement altéré des cons et l'illusion de contrôle de celui qui appuie frénétiquement sur le bouton de l'ascenseur quand il est pressé, le biais rétrospectif qui fait dire à tout bout de champ « je le savais », ou encore l'effet Dunning-Kruger, vouloir à tout prix t'expliquer ton boulot, alors que l'on sait que les personnes incompétentes tendent à surestimer leur niveau de compétence et ne parviennent pas davantage à reconnaître la compétence chez ceux qui la possèdent. Le biais de confirmation ou la propension à ne retenir que ce qui confirme ce qu'on sait ou croit savoir déjà, l'acceptation inconditionnelle de soi, à distinguer de l'estime de soi, laquelle s'appuie sur la performance et peut-être sujette à variation. En même temps, on est toujours le con de quelqu'un, estime Maxime Revert dans un livre qui vient de paraître chez Flammarion sous le titre « Que faire des cons pour ne pas en rester un soi-même ». Le philosophe s'emploie à dégager des lignes de fuite dans une perspective constructive, prenant acte du piège que constitue toute tentative de ramener le con à la raison. Il suggère d'adopter au contraire une forme de sagesse, relevant en l'occurrence de la sainteté, de la grâce. Car si les cons nous accablent et s'obstinent, ils nous amènent à faire l'expérience de nos propres limites. Et face au naufrage interactionnel consistant à perdre toute patience et bienveillance, à s'éloigner, à proportion même, de son idéal d'humanité, il convient de prendre en compte que les qualités d'intelligence et de tact ne tiennent leur sens qu'à la mesure de ce défi, car le mépris est contagieux. L'inspiration spinoziste de l'auteur lui indique qu'en philosophie, les jugements moraux ne servent à rien et que l'essentiel est de comprendre, ce qui signifie considérer ses comportements comme un problème concernant des lignes, des corps ou des points, morés géométricaux à la façon du géomètre. D'autant que l'usage politique de la connerie en mode retournement du stigmate peut avoir, au-delà du plaisir duplice et anticonformiste, des effets corrosifs. Marie Duret-Pujol l'observe en détail dans un livre sur Coluche, président, histoire de la candidature d'un con. C'est publié au bord de l'eau. Rappelons qu'au printemps 1980, le comique évoque son intention de se présenter aux élections présidentielles comme candidat nul pour faire voter les non-votants. Coluche est dans le rôle qu'il s'est forgé. Avec mon air qu'on reconnaît partout, je suis l'andouille qui fait l'imbécile. Peu après son premier appel historique, paraît donc dans Charlie Hebdo, j'appelle les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, j'en passe, il y en a encore 3 ou 4 lignes. Bref, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques à voter pour moi. Eh bien, pour conclure provisoirement, je dirais on souscrit d'emblée, sans barguigner, au sens récréatif et collectif du verbe « déconner ». Alors pourquoi ne pas en faire un principe de coexistence pacifique ? Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, les élections locales en Turquie.
C'est ça, des élections locales. Hier, qui devaient mesurer la popularité de l'AKP et du président Erdogan au pouvoir depuis 2002. Popularité ou désaveu, on va voir ça, puisque l'AKP est en difficulté. La capitale Ankara lui échappe. Istanbul, on ne sait pas encore. En tout cas, ces dernières élections avant 2023 pourraient bien sonner comme un coup de semonce. Eh bien, on voit ça avec vous, Dorothée Schmidt. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes directrice du programme Moyen-Orient et Turquie contemporaine à l'IFRI. Je rappelle juste ce chiffre provisoire pour l'instant, 44,2% au niveau national. Ça, c'est la progression de 2 points pour l'AKP par rapport à 2014. Mais c'est vrai que les deux villes principales pourraient échapper. Erdogan, dans son discours hier, ne triomphait pas. Il parlait de remédier aux faiblesses. Qu'est-ce que vous retenez principalement et d'abord, c'est que c'est ni un triomphe, ni finalement la claque peut être annoncée pour le président Erdogan non plus.
Écoutez, si Istanbul est perdu, puisque là on est quand même dans un moment où les deux candidats, Istanbul, celui de l'AKP et celui du Parti républicain du peuple, donc des Kémalistes, sont vraiment dans un mouchoir de poche, puisqu'on parle d'une différence de 4000 voix sur une municipalité qui fait 15 à 16 millions d'habitants. Si Istanbul était perdu, ce serait vraiment un revers très très grave pour la Kepé. Autrement, ce que je retiens, c'est l'importance du jeu des alliances, avec donc cette alliance entre la Kepé et les nationalistes qui effectivement permet à la Kepé de résister au point de vue numérique en termes de nombre de villes et de votes globaux, mais aussi un début de structuration de l'opposition avec l'alliance entre les kémalistes et le İyi Parti, ce bon parti qui est un parti nouvellement apparu sur la scène politique turque, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie, parce que malgré tout c'est une forme d'alternance qui pourrait se dessiner.
Oui, parce que c'était une des caractéristiques de ces élections locales que de confronter deux coalitions ou alliances, hein, alliance populaire AKP plus MHP nationaliste, et puis l'alliance nationale du parti II, puis CHP et le HDP kurde qui s'était retiré d'un certain nombre de villes également. Encore une fois, sur ces résultats, vous l'avez dit, là, quelques milliers de voix pour Istanbul, ça va se jouer à rien effectivement sur un nombre d'électeurs très important, près de 58 millions. Comment ça se fait qu'on soit si proche, à votre avis, dans certaines villes, finalement quelques milliers ?
Alors on ne peut pas nier que la situation économique a beaucoup joué sur ces élections, mais de façon plus générale, il y a quand même une usure du pouvoir, et c'est là que ce qui est intéressant dans ces élections, c'est de voir que malgré tout, la Turquie reste un pays plus démocratique que ce qu'on pourrait imaginer, ou qu'en tout cas, on est dans une forme de démocratie libérale, mais avec illibérale, hein, mais avec des ressources encore aujourd'hui populaires qui pourraient tourner peut-être en partie contre la Kepé. La situation économique a joué, je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui l'alliance entre le CHP et le İyi Parti affirme qu'elle a gagné avec énormément de municipalités de l'ouest de la Turquie, qui sont les municipalités où le capitalisme turc est implantée depuis le plus longtemps, qu'elle a gagné plus de 60% du PNB de la Turquie. Et évidemment, Istanbul, du point de vue de la production économique, c'est très important puisque c'est 30% du PNB de la Turquie. Et ce que je retiendrai aussi, c'est que la contestation, aujourd'hui, elle change de camp, puisque l'AKP a dit qu'il allait déposer un recours pour contester les résultats à Ankara. Donc là, on est à front renversé par rapport à la dernière élection, où c'était l'opposition qui avait déposé un recours parce qu'elle estimait que la victoire de l'AKP était frauduleuse.
Oui, ben, à Ankara, où Mansour Yavaz, donc le candidat du CHP, serait devant donc Mehmet Öçaşeki, qui est un ancien ministre. De la même manière, c'était un ancien premier ministre, hein, Ben Ali Yildirim, qui se présentait contre le candidat CHP à Istanbul. Donc là, la situation n'est pas réglée, mais on a quand même deux figures principales de l'AKP qui avaient été envoyées en renfort et qui finalement ne séduisent pas tant que ça. C'est ça aussi, ces figures.
Ouais, alors ce qui est très important aussi, du point de vue de fonctionnement interne de l'AKP, c'est qu'effectivement Erdogan avait installé comme candidat des hommes de confiance, des proches. Binali Yildirim, qui est une personnalité, qui est un ancien premier ministre de Tayyip Erdogan, qui est considéré comme une personnalité qui était aussi capable d'équilibrer d'une certaine façon Tayyip Erdogan, et qui donc était le meilleur candidat possible pour Istanbul, et puis s'est fait dépasser dans les sondages au fur et à mesure que l'élection se rapprochait. Mais dans la campagne électorale, où l'AKP a vraiment occupé toute la place, hein, puisque plus de 90% des médias étaient dominés par l'AKP, Erdogan a fait lui-même un nombre de meetings absolument impressionnant, avec jusqu'à 8 meetings par jour dans les derniers jours. Ouais. En réalité, au sein de l'AKP, on a vu qu'il y avait quand même des tiraillements. Il y a aussi des éditorialistes dans les journaux qui se sont montrés légèrement critiques vis-à-vis de la gouvernance de Tayyip Erdogan. Donc, on se demande aujourd'hui si ce début d'affaiblissement, hein, relatif de l'AKP pourrait amener un peu plus de discussion au sein du parti, voire éventuellement un début de contestation au sein du parti, au sein même du parti.
Ouais, on va redire un mot de Erdogan, mais pour rester sur la carte du scrutin également, donc dans l'Est, il y a eu une victoire du HDP, je crois que pour l'instant on en est à 8 provinces, mais également une bonne résistance, on pourrait dire, de l'AKP, avec ces mots du président Erdogan. Je voudrais remercier nos citoyens, en particulier nos frères kurdes, pour s'être approprié la question de la survie, puisqu'il avait présenté cette campagne comme un référendum pour la survie du pays, qui nous est sensible. Est-ce que l'AKP a tant percé que ça dans l'Est, finalement ?
Non, mais le HDP, en revanche, n'a pas fait des très bons résultats, et c'est dû évidemment à la la chasse aux sorcières constante à laquelle le parti doit résister de la part de l'AKP, avec des militants arrêtés constamment, avec, vous le savez, des dizaines de maires qui ont été destitués de leur fonction aussi dans l'Est et qui ont été substitués par des affidés de l'AKP automatiquement. Et donc Erdogan a déjà annoncé que de toute façon il pourrait contrôler ses municipalités à l'avenir. Mais enfin, le HDP a fait un assez mauvais score et c'est d'autant plus impressionnant que le parti avait effectivement choisi de se retirer des grandes villes pour soutenir, pour appeler vraiment à voter pour l'Alliance nationale, donc du JP et du parti.
Oui, et puis vous l'avez dit, avec 94 maires HDP destitués entre 2014-2019. Vous avez parlé de la présence, voire surprésence d'Erdogan dans cette campagne, hein, 102 meetings en 50 jours, 14 discours sur les deux derniers jours. Est-ce qu'il a eu tort de s'engager autant dans cette campagne, de l'erdoganiser? Est-ce qu'aujourd'hui ça va lui coûter finalement pour les prochaines années?
Toutes les campagnes sont erdoganisées désormais en Turquie. De toute façon, on a déjà eu des polémiques dans le passé, car le président s'impliquait dans les campagnes des élections législatives, des élections locales. Le pouvoir est devenu tellement personnel en Turquie que Erdogan ne peut pas faire autrement que de s'impliquer.
Parce qu'il y avait une logique pyramidale, disons, dans des élections législatives, voire présidentielles, mais là quand même...
Non, mais là, c'est le régime qui a changé. Je vous rappelle qu'on a quand même eu ce référendum constitutionnel l'année dernière qui a permis de vraiment personnaliser complètement le système avec un AKP, un président de la République qui est à la fois le patron du parti dominant, qui n'a plus de Premier ministre. Donc vraiment, Erdogan est tout puissant et c'est l'unique visible pratiquement dans le paysage. Donc il ne pouvait pas ne pas faire campagne. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que ses supporters continuent de dire qu'ils voteront pour lui à tout prix. Et finalement, on a toujours à peu près cette espèce de répartition avec 30 à 40% des Turcs qui sont indéfectiblement derrière Erdogan, quelles que soient les circonstances.
Oui, c'est ça, une base qui est quasiment acquise. Qu'est-ce que ça implique pour la gouvernance jusqu'en 2023? Donc dans ce régime, vous l'avez dit, nouvellement très présidentialisé. Est-ce que ça va réellement changer quelque chose, disons, d'avoir perdu les deux villes principales pour la gouvernance?
Non, d'abord, peut-être qu'on peut dire que du point de vue historique, ce qui est important, c'est que l'AKP a toujours un ancrage local qui était très important et que c'est là-dessus que c'est sur la gestion des municipalités qu'il a bâti ses victoires électorales. Erdogan lui-même a bâti sa carrière politique à partir de son mandat de maire d'Istanbul dans les années 90. Donc ça, c'est très important quand même, pas simplement du point de vue symbolique, mais du point de vue de l'ancrage du pouvoir à moyen terme. Et puis, évidemment, on peut imaginer que c'est pas ce qui va se passer sur Istanbul, hein. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut suivre dans les jours à venir. On peut quand même imaginer qu'on peut avoir aujourd'hui des foyers d'opposition qui soient un peu plus solides que dans le passé en Turquie.
Oui, avec des résultats qui ne sont toujours pas rendus pour Istanbul. Dernière chose, là vous disiez le bilan économique, le coût de la vie, c'est ça qui a coûté à l'AKP. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'années, 16 ans qu'ils sont au pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas une usure, tout simplement?
Oui, tout à fait, c'est par là qu'il faut commencer. Il y a une usure du pouvoir, mais enfin, quand il n'y a absolument aucune autre offre politique à disposition, l'usure du pouvoir, elle n'a pas vraiment de portée. Voyez le paysage politique en Russie, il est très largement dominé par Poutine parce qu'il n'y a aussi pas d'autre offre politique. Donc là, ce qui est quand même important, c'est qu'on perçoit une espèce de ressort de l'opposition, malgré toutes les manœuvres extrêmement clientélistes de l'AKP, qui a offert des largesses monétaires à tous ses électeurs dans les dernières semaines pour essayer de s'assurer des votes.
Bon, à suivre en tout cas dans les prochaines heures les résultats à Istanbul. Et merci pour vos explications ce matin, Dorothée Schmidt, directrice du programme Moyen-Orient et Turquie contemporaine à l'IFRI. Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Los Silencios, un film de Béatrice Seignet. Amparo arrive avec ses deux enfants dans une petite île aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Elle a fui le conflit armé colombien dans lequel son mari a disparu. Un jour, celui-ci réapparaît mystérieusement dans leur nouvelle maison. Los Silencios, un film envoûtant, mercredi 3 avril au cinéma. Un film France Culture.
France Culture et Sorbonne Université vous invitent au forum L'année vue par les savoirs. Et si tout se jouait le 26 mai ? Europe, le moment de vérité. L'Europe est-elle un mythe, un rêve ou un cauchemar démocratique ? Quelles frontières ? À qui profite l'Europe ? À moins d'un mois d'élections déterminantes, France Culture sonde les enjeux qui traversent le continent au cours de 4 tables rondes et d'un dialogue de clôture animé par les producteurs de la chaîne. Venez nombreux, samedi 13 avril dès 10h dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à Paris. Un événement en partenariat avec La Croix, l'Histoire, Alternatives économiques et avec le soutien de la Chancellerie des Universités de Paris. Plus d'infos, franceculture.fr. Entrée gratuite, réservation obligatoire sur maisondelaradio.fr.
Et restez nombreux à 6h57 sur France Culture pour suivre Les Matins avec Guillaume Erner. Bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et alors, savez-vous pourquoi les trottoirs sont occupés par des trottinettes ?
Eh ben oui, je ne sais pas si vous avez vu, mais les trottoirs des grandes villes sont désormais occupés par des trottinettes en location. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que d'ordinaire, lorsqu'une société se lance sur un nouveau marché ou dans un nouveau lieu, c'est pour gagner de l'argent. Mais là, les différentes start-up spécialisées en mobilité, c'est comme ça qu'on dit hein, maintenant, sont à peu près persuadées de ne jamais gagner d'argent avec leur activité. Pour vous le dire en quelques mots, le temps nécessaire à l'amortissement d'une trottinette est trop long par rapport à la durée de vie de la dite trottinette, laquelle sera inévitablement vandalisée. Il faut quelques mois pour amortir une trottinette, mais en fait, au bout d'une poignée de semaines, la dite trottinette est déjà en morceaux. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt ? Aucune boulangerie n'ouvre en étant certaine de perdre de l'argent. Oui, mais les boulangeries ne s'introduisent pas en bourse et c'est ça la différence. En réalité, les fondateurs de start-up proposant trottinettes, vélos en libre-service ou voitures sans chauffeur savent évidemment qu'ils ne gagneront jamais un rond avec leur activité. Mais ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour gagner de l'argent en vendant des actions. C'est exactement ce modèle qu'a suivi Lyft. Lyft, c'est le concurrent d'Uber qui s'est introduit en bourse la semaine dernière à Wall Street. Il propose des voitures sans chauffeur, soi-disant de manière plus éthique qu'Uber. Cette société vaut désormais des milliards de dollars, 24 milliards pour être précis. Pourtant, cette société perd de l'argent. Pire, c'est vraiment le tonneau des Danaïdes, 900 millions de dollars de pertes pour un peu plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Des pertes abyssales donc, et surtout rien, absolument rien qui ne prouve que Lyft sera un jour rentable. Les pertes de Lyft ne sont pas élevées parce que Lyft investit, les pertes sont élevées parce que son activité consomme de l'argent au lieu d'en produire. C'est une sacrée mauvaise affaire. Mais heureusement, il y a des pigeons, autrement dit des actionnaires, qui pensent que Lyft va gagner de l'argent, ou plus sérieusement, qu'ils vont réussir à vendre leur action de Lyft plus cher à d'autres pigeons. Et c'est ainsi que les pigeons se volent les uns les autres pour le plus grand bien de ce capitalisme actionnarial. Plus ils perdent de l'argent, plus leurs actionnaires en gagnent.
Les Matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
La démocratie obéit-elle à des règles complètement nouvelles ou bien le passé et le pire du passé pourrait-il se reproduire ? C'est la question que l'on va se poser aujourd'hui en compagnie du philosophe Michael Fessel et du journaliste Gérard Courtois. En attendant, il est 7h sur France Culture.